Je vous invite ce matin à prolonger la lecture, ou du moins plutôt à la reprendre, dans l'épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 3 et suivant. Nous lirons jusqu'au verset 9, mais ne nous arrêterons qu'à une partie de ce passage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous nous sommes arrêtés, c'est dimanche passé, au tout début de la lettre et au début de cette bénédiction, de cette louange de Dieu, de l'action de dire du bien au sujet du Seigneur et de ses œuvres. Nous savons donc déjà qu'il nous a engendrés à nouveau, c'est le sens exact du terme, pour le salut. Je prends le raccourci. C'est-à-dire pour la délivrance, non seulement d'un péril mortel, comme nous l'avons vu la semaine dernière, mais bien de la mort elle-même. La délivrance est totale. Désormais, tout disciple de Jésus-Christ est affranchi par le Seigneur. Il n'offre plus de prise au roi des épouvantements, selon l'expression qui se trouve dans le livre de Job. Le juste, dit par ailleurs les proverbes, trouve un refuge même en la mort. Belle expression que celle-là. Ainsi, l'apôtre Paul pouvait s'exprimer, lui par ailleurs, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain » dans Philippiens. Ainsi comme Christ mort ne meurt plus, Christ, pardon, ressuscité ne meurt plus, selon le texte de l'apôtre Paul aux Romains, ainsi la mort n'a plus vraiment de pouvoir sur celui qui a été engendré à nouveau par Dieu. Ainsi, en notre qualité d'enfant de Dieu, notre espérance, dont il a été question ce dimanche passé, j'espère que vous en souvenez un peu, notre espérance n'est pas une attente plus ou moins vague et plus ou moins sentimentale. Notre héritage n'est pas quelque chose que nous attendons avec la mort du testateur. Il s'agit d'autre chose, nous l'avons vu. Dieu nous a introduits dans un acquis, dans quelque chose qui est réel, dont il est, lui, le garant, puisqu'il en est aussi bien l'inspirateur que le réalisateur. Ainsi, le salut n'est pas une projection vers l'avenir, mais bien au contraire, une intrusion de cet avenir dans notre présent. C'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas être projeté en avant dans une date plus ou moins lointaine, et peut-être plus ou moins hypothétique pour certains. c'est au contraire la manifestation concrète de ce monde à venir dans le monde présent. C'est cela le salut. C'est cela que vivent les lecteurs de l'apôtre Pierre. C'est cette dimension qui sort de l'ordinaire, justement, et qui montre que l'espérance chrétienne est quelque chose de concret. Je n'ose pas dire de matériel, mais de concret, mais qui se manifeste. Le salut est déjà jouissance présente et heureuse de la vie céleste. Et cela dans le contexte de la vie terrestre. Déjà maintenant, par anticipation, nous jouissons de ce qui nous est réservé. Engendrés à nouveau pour le salut, les lecteurs de l'apôtre Pierre sont heureux. Heureux, c'est là ce qui fait votre joie. C'est-à-dire ce salut dont nous avons pris le temps de parler, que j'ai essayé de rendre accessible avec d'autres mots, avec l'explicitation des termes eux-mêmes, c'est là ce qui fait votre joie. Ou selon une autre version, ce qui vous fait tressaillir d'allégresse. Ou encore une autre, dans la traduction interlinéaire, qui vous fait exulter. Nous serions peut-être un peu en peine pour expliquer le mot exulter. Il vient du latin et il vient du mot sauter. C'est-à-dire que la joie est si intense qu'on ne peut pas la contenir, la dissimuler et que l'on saute de joie. C'est ça, exulter. Bien avant l'heure, Ésaïe parle de cela. Il exprime un ressenti de telle manière qu'il pourrait figurer dans les pages du Nouveau Testament. Mais il est vrai qu'on a appelé Ésaïe, le cinquième évangile. Voici en 61, le verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » On a l'impression d'entendre presque l'apôtre Paul. Quel beau passage que celui-là. Ésaïe 61, 10. Dans un tel tressaillement d'allégresse, dans la jouissance de ce bonheur de goûter au salut de Dieu, la parole de l'apôtre Paul, adressée à l'église de Philippe, n'a rien de surprenant. Lorsqu'il leur écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps », je le répète, réjouissez-vous. Il ne faut pas se méprendre. L'apôtre n'est pas en train d'appeler ses lecteurs à l'hilarité. Il ne s'agit pas de rire tout le temps. Ses propos sont écrits dans des circonstances qui lui étaient plutôt désagréable puisqu'il était enfermé, il était emprisonné. Mais l'Ecclésiaste n'écrit-il pas que le visage, avec un visage triste, le cœur peut être content? Avec des circonstances contraires, adverses, l'on peut être heureux. Et je crois que le disciple de Jésus-Christ est appelé à être heureux. Ne nous en déplaise, si le salut, tel que défini dans les versets qui précèdent, est tel qu'il est, ne croyez-vous pas qu'il devrait y avoir au sein du peuple de Dieu, sous quelque latitude qu'il vive, des points communs, ceux de la joie, ceux du fait fait d'être heureux dans les circonstances que l'on traverse. Oui, je le répète, le peuple chrétien devrait être un peuple heureux. Mais il faut quand même bien prendre conscience que toutes les circonstances ne sont pas des circonstances heureuses. C'est clair, personne ne le niera. Mais ce qu'il faut constater, c'est que nous sommes placés devant une évidence. Cette évidence, elle nous saute aux yeux, pour peu qu'on ait les yeux ouverts, bien sûr. Quelle est-elle? C'est là le salut, ce qui fait votre joie, quoique, maintenant, quoique, le mot vient introduire une restriction. Le mot amène quelque chose qui, normalement, est contraire au bonheur, mais, de toute évidence, ne l'a pas empêché. Car il le dit bien, c'est là ce qui fait votre joie, quoique. Quoique maintenant, dans le présent, au moment où il s'adresse à eux, et comme à l'époque, les communications allaient moins vite qu'avec le net, cela supposait des jours ou des semaines entre les nouvelles à l'aller et les nouvelles au retour. D'où a-t-il écrit, on ne le sait pas exactement. Mais quand bien même ce serait de Rome, comme certains le prétendent, il fallait un certain temps pour aller jusqu'en Asie mineure, pour recevoir les nouvelles de là-bas et pour pouvoir donner une réponse. Ce présent, qui offre un obstacle ici, l'apôtre Pierre le laisse entrevoir, avant que nous n'allions plus loin, est un présent qui se prolonge. C'est un présent qui, si j'ose dire, n'en finit pas de plonger dans le futur. Les choses semblent ne pas changer. Mais il est toujours un présent, bien sûr, puisqu'on entre dans le présent au fur et à mesure où il se présente. Ce maintenant, de toute évidence, est difficile à vivre. Le texte nous l'a montré par la suite et nous nous y arrêterons un peu plus en détail, en fait, la prochaine fois, je pense. Ce maintenant, en tout cas, est difficile à vivre. Mais il n'altère pas la joie des destinataires de la lettre. Votre joie est grande, vous tressaillez d'allégresse, vous exultez, bien que, quoique, ils sont heureux dans des circonstances, j'allais dire malheureuses. Pierre n'annonce pas la fin de ces circonstances, bien que cette adversité dont pâtissent ses frères et ses sœurs est un peu relativisée dans la durée, puisqu'il précise « pour un peu de temps ». Mais qu'est-ce qu'un peu de temps? Nous en parlerons la prochaine fois, Dieu voulant. Qu'est-ce qu'un peu de temps par rapport à une année, par rapport à une vie? C'est déjà plus la même mesure. Par rapport à l'éternité, le peu de temps peut durer un certain temps. Mais ça restera un peu de temps. La mesure n'étant pas prise de la même façon, selon que l'on est dans l'épreuve ou que l'on est spectateur de l'épreuve. Dans la souffrance, le temps semble ralentir, presque s'arrêter, tant la chose est difficile à vivre et on a l'impression que les aiguilles de la montre restent scotchées, qu'elles n'avancent pas. Et je vais aller encore un peu plus loin maintenant. Vous voyez que je ne vais pas très vite, mais je voudrais m'arrêter et relever donc l'expression suivante. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Voilà donc une expression qui peut nous faire sursauter. Il parle de circonstances nécessaires, d'une nécessité incontournable. Il faut. Ce mot, ce verbe, apparaît à de nombreuses reprises dans le texte biblique. Dans le Nouveau Testament, il doit y figurer probablement une centaine de fois. Qu'apporte-t-il? Simplement le fait d'une chose nécessaire, d'une chose obligatoire, d'une chose dont on ne peut pas faire l'économie. Je vais me permettre d'en rappeler deux ou trois de ces citations, enfin trois ou quatre, de ces citations. À plusieurs reprises, le verbe est appliqué à la personne de Jésus, et c'est lui qui utilise le mot, par rapport à lui-même, par rapport à son œuvre. Nous connaissons tous les textes des évangiles pour nous souvenir qu'il fut un jour où il commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita. Matthieu 16, 21. Il fallait, incontournable. On ne peut pas économiser cette démarche. Après la résurrection, aux disciples d'Emmaüs, il dira, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans la gloire? Et aux disciples, un peu quelques versets plus loin, aux apôtres, il dit, je vous disais qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans Moïse, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il le fallait. Donc, cela s'est accompli. Et voici que ce verbe va être utilisé dans d'autres circonstances pour introduire une obligation qui profite à ceux qui l'entendent. Tous, vous avez présent à l'esprit l'exemple ou les paroles de Jésus à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'y a pas d'autre chemin pour accéder au royaume de Dieu, la nouvelle naissance. C'est pourquoi il faut passer par là. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Lorsqu'il a dit à ce Nicodème, tu dois, il faut que tu naisses de nouveau, il lui dira quelques versets plus loin, quelques instants après, par quel moyen cette création nouvelle peut être possible. Dans Luc, au chapitre 19, et verset 15, que dit-il à Zachée? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée descendit de son arbre, où il s'était perché pour voir passer Jésus, le reçut dans sa maison, et Jésus dira un peu plus tard, « Le salut est aujourd'hui entré dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il fallait que Jésus passât par la Samarie. Vous connaissez la suite. La rencontre avec la Samaritaine au bord d'un puits, puis la démarche des habitants de Sichar, répondant à la voix de cette femme et venant voir qui était celui qui avait tout dit à cette femme. Et on pourrait multiplier les exemples. Encore d'autres utilisations de ce verbe, qui apparaîtra à plusieurs reprises donc dans Acte 5, verset 9. Il est dit simplement, Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Encore une fois, la même impérieuse nécessité. On ne peut pas l'éviter. Pourtant, ces hommes-là comprirent que d'obéir à cet impératif avait pour eux, pouvait avoir pour eux des conséquences fâcheuses. Ils ont été battus de verge, dit le texte. Interdits de parole, interdits de message. Ne parlez plus de ce nom. Quant à eux, précise le livre des Actes, ils se retirèrent joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils viennent d'être condamnés, ils viennent d'être fouettés, ils ont obéi à Dieu, ils en ont payé le prix, et ils s'en retournent chez eux, joyeux d'eux, heureux, avec des dos meurtris, ayant été battus de verge. Le cas des destinataires de l'apôtre Pierre n'est pas un cas unique dans le Nouveau Testament. On en est loin. Souvenons-nous de Paul, faussement accusé, d'ailleurs par les gens qui habitaient plus ou moins les mêmes régions auxquelles s'adresse l'apôtre Pierre, dans cette partie de l'Asie mineure aux frontières de la Galatie. Ils ont reconnu Paul, ils l'ont accusé, et il a été jeté en prison. Il a fallu y avoir une émeute, ils ont voulu le trucider. Le Seigneur lui rend un témoignage, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi en Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. C'était la garantie la plus sûre que l'apôtre Paul survivrait à ce qu'il vivait à Jérusalem, qu'il survivrait à tout ce qui surviendrait avant son arrivée à Rome. Il était sûr d'arriver à Rome. Dieu lui avait dit, comme tu as été témoignage de moi, témoin de ma cause ici à Jérusalem, il faut que tu le sois à Rome. Il faut. Donc, il était sûr d'aller jusque-là. Tout au long de son parcours missionnaire, l'apôtre a été ce qu'il voulait. Disciple de son fils, de Jésus, il marche avec lui, engagé avec lui. Et il pourra, à titre de conclusion de cette vie mouvementée qu'a été la sienne, il pourra écrire à Timothée, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Pierre disait à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui répondit, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de l'évangile, de la bonne nouvelle, et il énumère, ne reçoive au centuple dans le siècle présent tout ce qu'il a quitté, et dans le siècle à venir, la vie éternelle, mais dans le siècle présent, ce retour, cette bénédiction en retour, qui va multiplier par 100 tout ce qui a été donné, l'apôtre Jésus y ajoute, avec des persécutions. Avec des persécutions. Je disais il y a quelques instants qu'il ne s'agissait pas là de cas uniques, mais bien d'une démarche généralisée à tout le peuple de Dieu. Tous les disciples de Jésus-Christ, dans la mesure où ils sont disciples, auront à payer un certain prix. Je crois qu'il n'y a là aucune illusion à se faire. Certes, dans notre société, nous sommes beaucoup moins exposés que dans certaines sociétés de notre période, de notre temps. Il y a des lieux où aujourd'hui, pas aujourd'hui, ce jour même, mais de notre temps, des disciples de Jésus-Christ sont mis à mort. parce qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Ainsi, il nous faut bien comprendre que le bonheur d'appartenir à Jésus-Christ n'est pas lié aux circonstances que l'on vit. Il est lié à la jouissance que l'on a de ce que Dieu nous a donné. Et si véritablement on sait jouir de ce salut, alors aucune circonstance ne pourra ternir cette joie. Le texte de Pierre est absolument certain en la matière. Vous êtes heureux, vous êtes dans la joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. C'est une nécessité, nous allons y revenir, Dieu voulant, la semaine prochaine, parce que j'aurais voulu ne pas aller trop vite avec un tel passage. Mais nous allons y revenir. C'est une nécessité incontournable. Jetez un coup d'œil dans le livre des Actes des Apôtres. Allez vers le chapitre 14. Vous y trouverez l'apôtre allant de lieu en lieu, annonçant l'évangile, rencontrant des difficultés, au point qu'au chapitre 14, au verset 20, il va à Derbe, puis il y est sérieusement malmené, puisque il est laissé pour mort après avoir été lapidé. Le texte dit que les frères l'ont entouré, qu'il s'est levé, qu'il est rentré dans la ville. Puis il est parti et il va revenir, nous dira le passage. Il reviendra affermissant les cœurs des disciples. Mais où ? Par où passe-t-il ? Mais par là même où il a connu les difficultés. Là même où il a été lapidé, il retourne. Ce ne sont pas les coups qu'il a reçus qui vont l'empêcher d'aller retrouver ses frères. Et il continuera. Et il les engagera, dit-il, à persévérer dans la foi. Et il ajoute, il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est le témoignage de celui qui avait été lapidé très peu de temps avant et qui passera vers les groupes qui se sont constitués après son passage, après sa prédication, dans l'adversité. Il passera et leur dira qu'il faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment ne pas être sensible à un tel message ? Délivré par quelqu'un qui a connu ces détresses, qui a eu à les vivre, qui a eu à pâtir dans son corps et qui continue à avancer. Heureux d'annoncer un message libérateur. Heureux de pouvoir transmettre aux autres ce qui peut réellement les délivrer. C'est impressionnant. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est impressionnant. Oh, bien sûr, étant loin de circonstances aussi dramatiques, eh bien, nous ne pouvons percevoir que cela très partiellement. Mais engagez-vous au nom de Jésus-Christ. Dans votre milieu, dans votre quartier, dans votre travail. Et vous verrez si ça ne vous coûte pas quelque chose. Vous n'allez pas forcément être déchiqueté. Mais, vous verrez, il est impossible de briller réellement dans les ténèbres sans qu'il n'y ait une réaction des ténèbres. Ça fait partie de la règle du jeu. C'est pourquoi je terminerai en disant qu'il faut vraiment savoir apprécier ce que Dieu a fait, qu'il faut savoir y goûter, qu'il faut réaliser que non seulement ces dons de la grâce et tout ce qui rend possible le salut est accordé avec abondance, mais aussi que cela est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de concret, de réalisable. Ce n'est pas une simple idée. Pour pouvoir être en mesure de tout braver, de tout supporter, car c'est bien ce qui s'est passé. Lorsque, envers et contre tout, l'apôtre Paul dit à ses frères, soyez toujours joyeux. C'est parce que ce même apôtre a très bien pu comprendre ce que signifiait cette parole d'un Dieu qui le connaissait bien, lorsqu'il lui dit, ma grâce te suffit. Et si la grâce de Dieu était suffisante, ce n'était point pour avoir affaire à un Paul abattu, à un Paul démoli. S'il vivait la grâce, il ne pouvait être qu'heureux. Ce n'est pas possible de le vivre autrement. Heureux, car cette grâce était vraiment suffisante. C'est la même qui nous est offerte, bien-aimés. Et si, indépendamment, je dis bien indépendamment, de notre condition chrétienne, nous sommes tristes, alors nous sommes de tristes chrétiens. Car si, en butte aux détresses et aux difficultés qui ont marqué leur vie, les lecteurs de Paul faisaient du salut leur joie, malgré le fait qu'ils étaient obligés de passer par certaines choses, alors j'ose espérer que la nôtre n'est pas ternie par des broutilles et parfois par des choses qui sont dues à nos maladresses. C'est au nom de l'Évangile que nous avons à connaître cela. Et seulement pour l'Évangile. Là, le Seigneur est fidèle. Ainsi, j'aimerais bien que nous puissions nous représenter ce verset du texte de l'Apocalypse, où il nous est dit que celui qui chevauchait un certain cheval blanc était parti en vainqueur et pour vaincre. De toute évidence, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous que si nous chevauchons le même cheval, le Seigneur ne nous entraîne pas avec lui en vainqueur et pour vaincre, si c'est le cas, peut-on ne pas être heureux? Que Dieu nous aide à jouir de ce salut qu'il nous a offert.